c'est Intégral Tour, Christophe Cessieux.
67 km 500 de l'arrivée de cette 18e étape dont l'arrivée sera jugée tout à l'heure au sommet d'Otakam. Mais la première difficulté de la journée, et quelle difficulté est en vue puisque nous abordons à l'instant même, en tous les cas pour le groupe d'échappés, les premières rampes du col du Tourmalet, Fred.
Avec 67 km à parcourir effectivement, et le travail est fait à l'avant de cette échappée par les deux coureurs de l'équipe Europcar, Kevin Reza et Brian Cocard, qui travaillent pour Thomas Vauclair. Vauclair qui est toujours à la recherche d'une victoire sur ce Tour 2014, lui qui avait terminé deuxième il y a deux jours à Bagnères-de-Luchon, la tête de course qui en ce moment est à 67 km de l'arrivée, à la sortie de Sainte-Marie-de-Campan. Sainte-Marie-de-Campan, village célèbre pour le mythe de la fourche d'Eugène Christophe. Oh, c'était au tout début du XXe siècle quand Eugène Christophe avait dû s'arrêter chez le forgeron du coin pour faire réparer sa fourche. Sinon, il était contraint.
Je crois qu'il l'avait réparé lui-même, hein, me semble-t-il, non ?
Oui, en utilisant les outils, exactement, les outils du forgeron. Le genre d'épopée, le genre d'histoire qui n'a plus lieu, évidemment, dans ce cyclisme du XXIe siècle. C'était une autre époque. Mais on se régale quand même en 2014.
Frédéric, il n'avait pas le droit de demander au forgeron de réparer sa fourche. Si le forgeron avait touché à la, enfin, avait assisté Jean Christophe à réparer sa fourche, il aurait été mis hors course. Alors, donc c'est lui qui devait réparer sa fourche tout seul.
Alors la question, c'est est-ce qu'il y avait des commissaires pour surveiller la scène?
Je ne sais pas, puisque l'histoire est rapportée, il devait bien y avoir quelqu'un qui regarde.
Bien sûr.
Alors, maintenant, les légendes, elles sont ce qu'elles sont.
Voilà. Il avait marché quand même pendant 15 km avant de trouver le village et de réparer sa fourche. Hein.
C'était une époque où les délais n'étaient pas calculés de la même manière et où les étapes faisaient souvent plus de 300 km. On est au pied du Tourmalet, 17 km d'ascension pour la tête de course.
La tête de course et la moto RMC, Georges Quirino.
Exactement, et on vient de sortir à l'instant même de Sainte-Marie-de-Campan où les 20 coureurs de tête ont vu à leur droite une magnifique statue en bronze, justement, rendant hommage à Eugène Christophe, une statue où on voit le coureur avec sa fourche à la main, dans la main droite. Et juste après cette statue qui est à leur droite, les premières rampes de ce Tourmalet, sommet à 17 km 100, plus de 7,3% de pente moyenne, et ce sont les coureurs de la formation Europcar avec notamment Kevin Reza en tête qui s'est porté à l'avant de ce groupe pour les premières pentes qui ne sont pas très difficiles, évidemment, dans cette longue ascension du Tourmalet. On va s'arrêter et voir désormais comment ça va se passer au niveau du groupe maillot jaune.
Voilà, le groupe maillot jaune qui est pointé avec un retard de 3 minutes 40 environ derrière donc ces hommes de tête à 66 km de l'arrivée dans les premières rampes du Tourmalet. Cyril, le Tourmalet, tu le disais, c'est très haut, c'est très long, est-ce que c'est très raide également?
Oui, c'est très raide, et puis vous savez que la pente, en termes de ressenti, on va faire comme avec la météo pour le froid, en termes de ressenti, est toujours plus importante lorsque l'on dépasse les 1800 mètres et les 2000 mètres. Donc on a quand même une pente très régulière, entre 8 et 10% pratiquement sur toute l'ascension. Donc ce sont des pourcentages qui ne permettent pas de récupération. Et puis comme je le dis, le ressenti de la pente, est de plus en plus important compte tenu de l'oxygène qui se raréfie.
Et en parlant de ressenti, des rayons de soleil ici sur la ligne d'arrivée à Otakam. Otakam où Luc Leblanc s'était imposé il y a 20 ans dans le brouillard. On annonce de la pluie tout de même pour 16h. Mais ici sur la ligne, on est en train d'enlever des épaisseurs. On s'effeuille, ça fait du bien. Ici, on est haut quand même. On est à combien d'altitude ici à Otakam? 1520 mètres. Ça ne vaut pas les 2115 mètres d'altitude du Tourmalet, mais tout de même on est bien content de voir l'atmosphère se réchauffer un petit peu. 65 km de l'arrivée et un homme est en train de mener le groupe, c'est Sylvain Chavanel, le groupe de tête, relayé Sylvain Chavanel par le jeune Brian Cocard, comme un passage de témoin très symbolique ici à la sortie de Sainte-Marie-de-Campan. Sylvain Chavanel qui laisse la main, le commandement de ce groupe d'échappée à Brian Cocard, le néophyte d'Europcar, 22 ans seulement.
Alors Cyril, que fait Brian Cocard dans l'échappée aujourd'hui? Cocard, on l'attend peut-être plus vraisemblablement demain dans une étape toute plate, ou encore dimanche sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il n'est pas en train de griller ses dernières cartouches et ainsi ne plus avoir aucune chance de remporter une étape au sprint avant l'arrivée?
Oui, on peut se poser la question. Les sprinteurs font plutôt étape de repos aujourd'hui en étant en se regroupant dans le groupe Eto. Lui, il se retrouve à l'avant à prendre de longs relais, ce qui peut hypothéquer ses chances dans l'étape de demain. Mais je crois que c'est pas l'objectif de l'équipe Rockcar que de préparer les sprints pour Cocard. Jean-René Bernadeau a été très clair à ce niveau-là. Alors peut-être qu'on peut aller poser la question au directeur sportif.
Ben écoute, on va voir si Georges peut accéder au directeur sportif de la formation Robcar. Une question sur rmcsport.fr, Cyril, pour toi, quel est le col le plus compliqué à monter, celui que les coureurs redoutent le plus, pas forcément dans les deux cols d'aujourd'hui, mais en général sur les cols du Tour de France?
Oh, il y a le col de Mante qui fait partie des cols difficiles, tout du moins dans les Pyrénées, l'Aubisque et le Tourmalet de toute façon. Et puis sur les Alpes, vous savez, vous avez la Croix de Fer, la Madeleine, l'Isoard. Alors tout dépend si on les passe en première position ou en dernière position. Tout dépend la longueur de l'étape, ce qu'il y aura après, parce que un col peut être difficile si on le passe après 180 km et qu'on a déjà monté trois cols avant. La Croix de Fer, quelquefois, on la passe comme premier col dans la traversée des Alpes et elle ne fait pas de différence. Elle use les coureurs. Mais il n'y a pas de différence qui se font. Les différences se font dans les cols suivants. Donc tout dépend de la position dans une étape. Mais si sur les Pyrénées, Tourmalet, Aubisque, ce sont quand même les deux grands géants des Pyrénées.
Mm-hmm. Avant de s'intéresser aux autres cols, je vais te poser une petite colle justement à Fred tout à l'heure, non, qui connaît tous les cols de France, mais également d'Espagne,
d'Italie, de Navarre,
exactement.
On n'est pas loin.
Pas très loin. on va retrouver notre espagnol à nous sur sa moto, Georges, qui voit le peloton qui est toujours pointé avec un retard de 4 minutes sur les hommes de tête, Georges.
Exactement, avec sommet du Tourmalet à 16 km, c'est l'indication sur leur droite, le peloton, un gros peloton évidemment encore, puisque c'est seulement les premières difficultés, le peloton emmené par les coureurs de la formation Astana. S'ils prennent toute la largeur de la route, les coureurs, les Astana qui sont devant, ils sont 5 au moins, avec Vincenzo Nibali qui est présent dans les 10 premières positions, même les 5 premières positions pour l'Italien. On voit les AG2R la mondiale avec leur casque jaune qui sont dans un deuxième rideau et qui essaye de remonter visiblement pour peut-être prendre un peu le contrôle des hostilités. Thibaut Pinot, lui, est aux alentours de la 15e position. Il a le maillot ouvert, le coureur de la formation FDJ.fr. Voilà la formation du peloton, alors que l'on est dans les premières rampes qui ne sont pas très difficiles encore, à 2% seulement de ce Tourmalet.
2% seulement, mais 2% qui suffisent à écarter Brian Cocard, Cyril, le sprinter de la formation Europcar, qui a lâché prise dès les premières rampes de ce col du Tourmalet. Donc il va attendre le peloton et probablement même attendre le groupe Eto tout à l'heure. Hein.
Oui, bah, il a pris sur toute la partie plane, il a beaucoup travaillé au sein de cette échappée. Maintenant que la pente devient plus importante, eh bien il rend les armes et il va effectivement essayer de récupérer un petit peu pour prendre le groupe Eto dans une quinzaine de minutes.
Ok, allez, on va retrouver notre ami Dédé, mais on ne sait pas où il est exactement. Ça fait toujours marrer Fred, ça, dès qu'il entend le générique de Dédé.
Mais où c'est Dédé? J'adore.
Moi, je suis content.
On s'amuse d'un rien.
Hein. Eh oui. Ça va, mon Dédé? Tout va bien? Exactement. Tu es où alors?
Je viens de faire la bascule du Tourmalet. Je suis dans les deux premiers lacets dans la descente, où j'ai une superbe vue en contrebas dans la vallée. Et donc, je suis un peu au soleil et un peu à l'ombre. Les nuages sont accrochés au sommet, mais ça se dégage. Plus on descend et plus on va vers la vallée, plus ça devrait être roulant et clair.
Mm-hmm. Alors Dédé, cette descente du Tourmalet, est-ce qu'elle est dangereuse? Est-ce qu'il faut s'en méfier? Raconte-nous un peu à quoi ça ressemble.
On s'en méfiera un peu, mais peut-être un peu moins que les années précédentes, puisque vous savez bien qu'il y a eu ces intempéries en juin 2013 qui ont arraché une partie de la route. Il y a près de, à certains endroits, 20 mètres de remblais qui ont été arrachés par la pluie. Tout a été refait donc sur la partie Barège vers Luz Saint-Sauveur. C'est une route intégralement neuve, un tapis parfaitement roulant qui a été refait par le département. Et sur la partie plus haute, donc entre le sommet et Barège, c'est essentiellement des routes reprises, refaites, voire des tronçons intégralement à neuf que les coureurs vont pouvoir emprunter. Donc c'est une route particulièrement roulante et qui va donner, qui devrait rendre.
Donc pas de souci dans la descente du Tourmalet. Ensuite la montée d'Otakam. Bon là évidemment en montée c'est moins dangereux, mais il y a énormément de monde. Hein, et il faut se méfier évidemment pour les coureurs. Hein, ça peut être piégeux.
Alors il y a beaucoup. Oui, il y a en effet beaucoup de monde dans la montée d'Otakam. C'est plus difficile par endroit. Les passages sont parfois plus étroits et en particulier dans la traversée de deux ou trois villages comme Aeros ou Arbouix. Où là, ça sera assez délicat, mais comme tu le disais, c'est quand même relativement simple parce qu'on est en montée et donc les choses vont beaucoup moins vite. Ça devrait passer sans encombre sur cette dernière montée avant de retrouver demain un parcours beaucoup plus plat.
Très bien. Et puis c'est ce soir que ça va être compliqué. Ce sera pour redescendre de Otakam, mais on compte sur la voiture de Dédé et le Gros Léon qui va nous faire la route, évidemment. Hein.
Ouais, Gros Léon, je suis pas persuadé qu'il fasse la route, mais en revanche, moi, je serai là avec mes giros.
Voilà, il y a le Gros Léon et le petit Dédé, quoi. Avec Boudin, on va s'en sortir. Merci André, à tout à l'heure. André de l'Assemblée des départements de France qui s'occupe de la route, des routes de ce Tour de France. Fred, on est toujours dans l'ascension du Tourmalet. Il y a un homme tente de s'échapper. Il n'est pas connu pour être un formidable grimpeur, mais c'est un garçon qui a une machine à rouler, un certain Sylvain Chavanel.
Il était ces dernières années effectivement surnommé la machine par nos voisins belges, lui qui courait chez Quickstep ces dernières années sous les ordres de Patrick Lefebvre. Sylvain Chavanel qui est en train de sortir effectivement du groupe de tête, un groupe où on est en train de perdre des hommes, parmi lesquels Thiago Machado, l'ancien troisième du général qui était tombé en début de deuxième semaine. On se demandait s'il allait repartir le jour de l'arrivée à la planche des Belles-Filles, me semble-t-il.
Oui.
Thiago Machado qui est en train de faire les frais de cette accélération de Sylvain Chavanel. Chavanel qui nous fait sans doute comme le jour de la victoire de Blaise Cadry qui est également présent aujourd'hui dans l'échappée vers Gérard May à la Moselaine. Chavanel est en train de nous faire peut-être un chant du cygne. Ne lui souhaitons pas que ce soit le coup des dans l'eau pour briller une dernière fois aujourd'hui sur cette 18e étape, mais sans doute anticipe-t-il les débats et il n'aime plus les à-coups et il n'aime plus les pentes trop prononcées. Sylvain Chavanel, 35 ans, on le rappelle, triple vainqueur d'étape sur le Tour de France, que ce soit à Montluçon et de mémoire à Spa et au Rousse en 2010 où il avait remporté deux étapes. Chavanel qui est en train de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée. Il compte un peu plus de 150 mètres d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée et 4 minutes d'avance sur le groupe maillot jaune.
Et dans ce groupe d'échappée, il y a quand même les deux anciens, ceux qui nous ont fait vibrer côté français pendant des années, Cyril, Sylvain Chavanel et Thomas Vauclair. Ils sont à ton avis en fin de course, en tous les cas moins tranchants que les années précédentes?
Oui, sur ce que l'on a vu sur ce tour et même depuis le début de saison, Chavanel n'a pas réédité ses résultats d'il y a 2, 3 ou 4 ans. C'est également vrai cette année pour Vauclair. Alors est-ce que cette étape ne va pas être pour les deux ou pour un des deux tout du moins la possibilité de renouer avec la victoire? Pourquoi pas, ils sont dans une position idéale actuellement. Alors, vont-ils confirmer par un manque de puissance athlétique leur retrait ou leur diminution de potentiel, ou au contraire vont-ils démontrer que ils ont encore quelque chose à dire dans le peloton? Enfin, ils ont sûrement encore quelque chose à dire.
On l'espère pour eux évidemment. Ils essayent.
Mais vous savez aujourd'hui, vous perdez 3-4% de votre potentiel, vous passez de celui qui peut gagner à celui qui ne peut plus influer sur la course.
Et évidemment, 3-4%, c'est ce qui fait la différence entre un bon coureur cycliste et un champion. Allez, nous sommes à 61 km de l'arrivée. Avant de s'interrompre quelques instants, on va faire un nouveau top course. Fred,
RMC top course.
61 km de l'arrivée, et cela signifie une grosse douzaine de kilomètres avant le passage au col du Tourmalet là-haut, 2115 mètres d'altitude. 79e fois dans l'histoire que les coureurs du Tour de France gravissent cette difficulté longue de 17 km. Un homme en tête, Sylvain Chavanel, qui compte une quinzaine de secondes sur un duo qui est en train de sortir du groupe d'échappée, Mikel Nieve, l'Espagnol de l'équipe Sky, et Blaise Cadry, le coéquipier de Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet au sein de la formation AG2R La Mondiale. Le reste du groupe échappé est en train de se disloquer sous l'impulsion de ses coureurs, qu'ils s'appellent Chavanel, Nieve ou Cadry. Chavanel qui compte 4 minutes 10 d'avance sur le groupe maillot jaune. On est à un peu moins de 11 km maintenant du passage au Tourmalet.
Et le groupe Eto est en train de se former à l'arrière du peloton maillot jaune, avec notamment le maillot de champion de France de Arnaud Démare. Il y a beaucoup de monde dans ce groupe Eto qui est en train de se former. 60 km de l'arrivée. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette 18e étape, la montée du Tourmalet, puis ensuite la descente et la montée finale vers Otakam. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Dans l'ascension du Tourmalet, avant dernière difficulté de ce Tour de France 2014, il y aura ensuite la montée vers Otakam et ensuite une longue ligne droite qui nous amènera jusqu'à Paris. C'est la dernière étape de montagne de ce Tour de France 2014 et c'est donc la dernière occasion pour les Français de briller à nouveau. Quand on pense aux Français, on pense évidemment à Jean-Christophe Perrault, à Thibaut Pinot et à Romain Bardet. Pour l'instant, ils sont tranquillement installés dans le peloton, un peloton qui ne subit pas d'attaque dans les premières rampes de ce Tourmalet, mais il y a tout de même des dégâts, puisque beaucoup de coureurs sont retardés à l'arrière du peloton maillot jaune. Fred.
Oui, difficile de tous les énumérer. Andrei Grivko, l'Ukrainien, coéquipier de Nibali, est là. Tous les équipiers modèles, ceux qui ne sont pas à l'aise dans la montagne, évidemment, font les frais de l'accélération du groupe maillot jaune, avec les coéquipiers de la formation Astana qui sont en train de mener ce peloton maillot jaune tambour battant. Le Suisse Elmiger est en train de sauter les champions nationaux avec Langevelde, le Hollandais. Tout cela n'est que très normal à maintenant 10 km du passage au Tourmalet. On a trois hommes en tête, puisque Sylvain Chavanel, qui avait déclenché les hostilités tout à l'heure, vient d'être rattrapé et même doublé par un duo composé de l'Espagnol Mikel Nieve. Attention, il est dangereux, le coureur de l'équipe Sky, non pas au classement général mais pour une éventuelle victoire d'étape. Et Blaise Cadry, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, qui a déjà remporté sa petite étape sur le Tour, pas n'importe laquelle, c'était à Gérardmer, sur les hauteurs de la station Vosgienne, c'était à la Moselaine, très exactement, sous une pluie battante. Le duo Nieve-Cadry qui est en train de déposer Sylvain Chavanel, comme on l'annonçait tout à l'heure, il y a quelques instants avant la pub. Chavanel a chanté son chant du cygne aujourd'hui sur les pentes du Tourmalet.
Compliqué effectivement pour Sylvain Chavanel, qui ne réussit pas à suivre le rythme imposé par Blaise-Cadry, coéquipier de luxe pour Perrault et Bardet. Tout à l'heure, la moto RMC qui est à l'avant de la course, justement, peut-être en compagnie des deux hommes ou des trois hommes, Georges.
À 10 km du sommet, on est en train de remonter les retardés, mais on a une vision un petit peu globale. Oui, Sylvain Chavanel qui a été déposé par Blaise-Cadry et Mikel Nieve. On a également en visuel devant nous le groupe de poursuivants avec Thomas Vauclair qui était dans le groupe en tête il y a encore quelques instants et qui ne semble pas vraiment dans un grand jour. Alors c'est vrai qu'il a toujours cette attitude qui nous fait croire qu'il est à la limite, Thomas Vauclair, mais là il est en bout de groupe. On a remonté des coureurs. Brian Cocard qui s'est carrément laissé lâché pour rejoindre le groupe Eto, il avait le sourire. Mathieu Ladagneuse de l'FDJ.fr, que l'on pouvait peut-être attendre pour aider Thibaut Pinot plus tard, et bien lui aussi a lâché, donc ce ne sera pas un soutien pour le coureur de la FDJ tout à l'heure.
Et oui, puisqu'il n'y a que 4 minutes 10 d'écart et que le peloton maillot jaune ne va pas tarder à reprendre les lâchés de ce groupe d'échappés. Cyril, on a la confirmation, hein, Chavanel et Vauclair, c'est un peu limite cette année, malheureusement, pour essayer d'aller remporter une étape.
Petite info, Cyril, excuse-moi, pardon de te couper. Il y en a un qui est en train de dire adieu, peut-être simplement au revoir, mais pour 2014, c'est râpé. Joaquin Rodriguez, qui rêvait encore ce matin du classement de la montagne, le maillot à poids, est à l'arrière du peloton, un peloton qui compte encore près de 80 unités, qui est relégué à 4 minutes de la tête de course Nieve-Cadry. Joaquin Rodriguez, qui était échappé hier en direction de Saint-Lary-Pladadet, est en difficulté, il paye les efforts de la veille, et selon toute vraisemblance, Rafał Majka, vainqueur déjà à Rizoulé hier au Pladadet, reliera Paris avec le maillot à poids de meilleur grimpeur.
Et oui, le maillot à poids pour Majka, Cyril, oui.
Oui, non, je,
je confirme les informations et le ressenti de Frédéric. Je crois qu'il a abandonné toute Rodriguez, bien sûr, toute velléité pour le classement par points. Il se sera bien battu. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu une vraie lutte pour le classement de la montagne. C'est vrai que la façon dont les points ont été répartis progressivement depuis quelques années font qu'il faut qu'on soit en grande condition physique et un grimpeur aussi pour l'emporter. Et pour l'instant, Machka ne l'a pas encore véritablement gagné, car il faudrait que...
Nibali, hein, dans le coup aussi.
Ben,
hein,
oui, parce exactement. Que Nibali, s'il gagne l'étape, il va quand même marquer une petite plaisanterie, 50 points seulement. Il fera que Machka en marque quand même quelques-uns pour ramener ses petits pois à Paris.
Voilà, les petits pois en plus du petit jaune pour Nibali. Thomas Vauclair est lâché, me semble-t-il. Georges, dans la moto RMC, à l'avant de la course.
Oui, exactement, il était dans le groupe de poursuivants, il était à l'arrière de ce groupe depuis un petit moment, et là il a carrément laissé tomber, il a stoppé son effort, Thomas Vauclair, le maillot grand ouvert, on l'a vu faire non de la tête, Thomas Vauclair qui a ensuite récupéré une bouteille d'eau sur la droite de la route pour se la vider sur la tête. Il a coupé son effort et va maintenant attendre le peloton derrière lui, donc il n'y aura a priori pas de nouvel exploit de Thomas Vauclair même sur ce Tour de France, parce que là le profil des étapes qui arrivent maintenant vont être difficiles sur lui, alors que Sylvain Chavanel est repris par le premier groupe de contre-attaquants désormais. Donc même Sylvain Chavanel, voilà, les deux grands coureurs français de la génération précédente, on a presque envie de dire, qui sont en difficulté dans à 10 km du sommet du Tourmalet.
Très bien, il y en a d'autres qui sont en difficulté, Fred, pas des Français mais des leaders du général, enfin pas des leaders mais des supposés leaders en tous les cas.
Oui, Jürgen van den Broek, le leader belge de la formation Lotto Bellisol, qui était dans le coup hier en direction de Saint-Lary-Pladadet, 12e du général ce matin. Eh bien, Jürgen van den Broek est en train de décrocher, lui qui pointait à 16 minutes de Nibali ce matin au général. Autre victime des dernières minutes, Richie Porte, 15e du général, le leader de substitution de la formation Sky, qui était tout de même relégué à plus d'une demi-heure de Nibali ce matin au général, est en train de décrocher alors qu'il reste une soixantaine de coureurs, une grosse cinquantaine de coureurs maintenant dans ce groupe maillot jaune. Effectivement, les premiers kilomètres du Tourmalet sont déjà très durs à digérer. On est en fin de troisième semaine, c'est la troisième étape consécutive dans les Pyrénées, au lendemain d'une étape qui a usé beaucoup beaucoup d'organismes, et le rythme imprimé par trois coéquipiers désormais de Vincenzo Nibali à l'avant du peloton est difficile à suivre pour beaucoup. Notez que à l'avant de ce groupe maillot jaune, on trouve Alejandro Valverde et des équipiers. Pierre Roland est idéalement placé. On aperçoit également Romain Bardet. Thibaut Pinot semble là pour l'instant. Aucune défaillance de la part des principaux prétendants au classement général. Ceux qui rêvent encore du podium, ils s'appellent Pinot 3e, Perrault 4e et Bardet 5e. On le rappelle, 3 Français dans le top 5 et encore a priori 2 qui peuvent rêver du podium. Il y a sur ce Tour 2014, c'est assez symbolique avec Chavanel qui rentre dans le rang en ce moment et Thomas Vauclair qui décroche de l'échappée. Il y a en 2014 une passation de pouvoir au sein de la hiérarchie française au moins.
Passage de témoin. Alors on parle beaucoup des 3 Français qui sont Pinot, Perrault et Bardet, respectivement 3e, 4e et 5e. On parle un peu moins de Pierre Roland qui nous a pourtant régalé lors des 2 précédents Tours de France. Il y a une question d'ailleurs concernant Pierre Roland sur le site rmcsport.fr. Cyril, allez pour toi. Richard nous dit: j'entends beaucoup parler de Bardet et Pinot, mais qu'en est-il de Pierre Roland qui lui aussi est très bon et pas assez mis en avant? Qu'est-ce que tu en penses, Cyril?
Bien, pas assez mis en avant. Il est 10e du classement général. Il y a 3 autres Français qui sont devant lui. C'est logique de parler des 3 Français qui se battent pour le podium plus que pour Pierre Roland, qui a tenté un certain nombre de coups de force depuis le départ du Tour pour essayer d'aller chercher une gagne d'étape. Bah, malheureusement, il n'y a pas réussi. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, déjà l'an dernier, un Français qui aurait été 10e au classement général et premier Français, on en aurait parlé beaucoup plus. Or, Pierre Roland, il est 4e Français. On parle donc, et c'est logique, des 3 Français qui jouent la la gagne du podium. Mais je pense que Pierre Roland, par rapport à, aux tentatives de victoire d'étape et encore hier, mais hier, ben il n'a pas pu aller jusqu'au bout de son entreprise. Mais on ne fait pas de l'anti Pierre Roland.
Bien sûr, hein, on rappelle que Pierre Roland avait terminé 8e du Tour en 2012, 10e également en 2011. Donc pour l'instant, il est à son niveau en étant 10e au classement général. Pierre Roland, on rappelle également qu'il sort du Giro, hein,
ah, oui,
Fred,
hein, oui, oui.
Et qu'il a fait un très beau Tour d'Italie.
Et quel Giro, effectivement, il avait terminé 4e, déçu de ne pas avoir accroché le podium. Pierre Roland qui avait fait notamment une étape dantesque dans la roue de Nairo Quintana, futur vainqueur. C'était le jour de cette étape où les coureurs avaient franchi le Gavia, notamment sous la neige. Vous parliez d'écoles mythiques, l'école les plus dures.
Oui. L'école les plus dures. Alors, on parlait d'école du Tour de France, mais il y en a d'autres, évidemment, dans les autres grands tours. Hein.
Oui, il y en a d'autres, ne serait-ce qu'en France, déjà. Effectivement, on va pas tous les lister. Cyril parlait tout à l'heure de Manté, notamment. Effectivement, on peut citer le Grand Colombier dans l'Ain, le Glandon, par sa face nord, c'est une vraie pourriture. Marie-Blanc n'est classée qu'en première catégorie, mais je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais Marie-Blanc, pour moi, c'est l'un des cols les plus indigestes parce qu'il monte tout droit. C'est quelque chose.
C'est comme la côte de la Fraie, mais
assez,
en plus long.
assez infâme. La Bonnette Restefond est quand même quelque chose de particulier.
Très, très haut,
c'est la route la plus haute d'Europe. Et quand on essaye de pédaler là-haut à plus de 2700 mètres d'altitude, l'oxygène vient à manquer et ça devient un vrai calvaire. En Espagne, il y a évidemment l'immanquable Angliru. En Italie, on a parlé du Gavia. Il y a le Stelvio qui monte très, très haut. Il y a
le Mortirolo aussi.
Et il y a cette découverte des dernières années, le Monte Zoncolan, là où s'est imposé Michael Rogers fin mai lors du dernier Giro. Il y a aussi ce col qui n'est pas asphalté, vous savez, le col delle finestre, où était passé.
On passe souvent par la fenêtre.
Oui, mais c'est vrai que ça donne des images assez incroyables, assez stupéfiantes. Et puis en cherchant dans mes archives, je suis allé vous dégoter un petit col en Espagne qui n'est pas vraiment utilisé apparemment par les routes, par la Vuelta. Il s'appelle le Scanupia et il monte à 17% sur 8 km avec un deuxième kilomètre qui a un pourcentage moyen de 26,5% sur 1 km.
26%. Alors d'ailleurs, on en a vu un tout à l'heure.
Il est pour toi. Celui-là est pour toi.
Ah oui, celui-là, il est pour moi, mais à pied en reculant. On en a vu un tout à l'heure, mais on pensait que c'était un col. C'était une route, un chemin de carrière. Cyril, impressionnant. Hein. Je ne sais pas combien ça montait, ça. On n'a pas essayé de mettre la Lucho Mobile dessus. Mais là,
il faut un 4x4, surtout si tu es dedans, Christophe.
Il y en a des horreurs de par l'Europe, mais c'est dans les horreurs qu'on voit les plus beaux morceaux de cyclisme.
Alors, il y a les horreurs, il y a aussi les paradis, comme on a fait hier soir, en rentrant de notre étape. Oui. L'Ourquette dans 6 ans. En plus, le nom est complètement poétique et c'est un col magnifique.
Il y en a vraiment qui vont croire qu'on est en vacances sur ce tour, mais c'est après l'étape.
Il était 21h30, on n'avait pas mangé, on n'était pas en vacances.
Et on a croisé un maximum de vaches en liberté. Prudence, on n'était pas les seuls. Et c'est vrai que en bas, à la sortie de Saint-Lary, on longe la rivière, on tourne à gauche après le village de Christophe, si tu te souviens, je sais plus, c'est à 5 km.
Duchin.
C'est ça, à gauche, la Ourquette dans 6 ans qui avait été empruntée pour la première fois sur le Tour de France c'était l'an passé, je crois, ou il y a 2 ans. Il y a aussi le Cormet de Roseland qui est un col absolument magnifique. On ne l'a pas emprunté cette année sur le Tour, mais c'est vrai que la montagne nous offre l'enfer et le paradis en quelques kilomètres de différence.
Parfait, 56 kilomètres de l'arrivée, nous sommes toujours dans le col du Tourmalet. Pas de grande bagarre pour l'instant, on va vous faire un point complet dans un instant, à tout de suite.
RMC Intégral Tour. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio.
Allez, le top course avec Fred, nous sommes à 56 km de l'arrivée, toujours dans le Tourmalet pour les hommes de tête et pour le peloton.
56 km, cela signifie encore 6 km d'ascension dans ce Tourmalet qui monte là-haut pendant 17 km jusqu'à 2115 mètres d'altitude. Le Tourmalet dans lequel sont actuellement Blaise Cadry et Mickaël Nievé, les deux hommes de tête. Cadry, coéquipier de Pérou et Bardet au sein de la formation AG2R La Mondiale. Mickaël Nievé c'est le coureur basque de l'équipe Sky, un coureur qui va bénéficier et qui bénéficie déjà depuis le début du Tourmalet d'un fort soutien espagnol et basque. Ils sont nombreux les supporters espagnols et ça pourrait avoir une incidence tout à l'heure dans le final vers Otakam avec un Alejandro Valverde qui s'accrochera de toutes ses forces à sa deuxième place. Le duo Nieve-Kadri compte au dernier pointage une quarantaine de secondes d'avance sur leurs anciens compagnons d'échappée, le russe Trofimov, l'italien Demarchi et le hongrois Uzarski. Le reste du groupe d'échappée est un peu plus loin, à près d'une minute trente. Le groupe maillot jaune est à près de 4 minutes du duo Nieve-Kadri. Attention, Nieve est en train de décrocher Blel Kadri à l'approche des premiers tunnels juste avant la station de la Mongie. On commence à avoir la tête dans les nuages là-haut en altitude. Blel Kadri qui semble un peu court pour suivre le rythme du grimpeur de l'équipe Sky, un coureur qui a déjà remporté une étape au mois de juin dernier sur le dernier critérium du Dauphiné. C'était à Courchevel. Souvenez-vous de ce nom, Mikel Nieve. On en reparlera peut-être tout à l'heure ici à Otakam.
Très bien, Mikel Nieve donc seul en tête, Blel Kadri dans sa roue, les hommes qui vont passer dans quelques minutes à la Mongie. Il restera 5 km d'ascension avant de passer au sommet. À tout de suite sur RMC.
Appelez RMC au 32-16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. RMC, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Toujours dans l'ascension du Tourmalet, à un peu moins de 5 km du passage au col, avec deux hommes en tête, puisque Kadri a réussi il y a quelques instants à reprendre la roue de Nieve. Donc deux hommes en tête, Fred, qui compte 4 minutes d'avance sur le peloton. Nouveau point sur la course.
RMC, Top Course.
Encore un peu moins de 5 km à gravir pour basculer là-haut à 2115 mètres d'altitude. Le souvenir Jacques Godet, fondateur du Tour de France là-haut, au col du Tourmalet, mythique, escaladé aujourd'hui pour la 79e fois dans l'histoire du Tour. Le duo Nieve-Kadri compte un peu plus de 30 secondes sur un trio composé du russe Trofimov, de l'italien Demarchi et du polonais Uzarski. Le reste de la grosse échappée du matin navigue à plus d'une minute trente maintenant, au sein de laquelle on trouve Thomas Vauclair, on trouve Sylvain Chavanel. Tout cela joue battu a priori, puisque les meilleurs grimpeurs sont désormais à l'avant. Le groupe maillot jaune est à 4 minutes, un groupe où ne figurent plus Van den Broek ou Richie Porte, ainsi que Kwiatkowski. Voilà les principales victimes de la première partie de l'ascension du Tourmalet. Pour l'instant, pas de bagarre à l'avant du groupe maillot jaune. Le duo Nieve-Kadri s'entend très bien. On est déjà quasiment la tête dans les nuages sur la route du Tourmalet.
Alors malheureusement, on va pas pouvoir aller voir la moto car les organisateurs ont décidé d'envoyer les motos et déjà dans la descente, c'est-à-dire qu'il reste 5 km d'ascension et qu'on ne va pas pouvoir
il est là,
Georges.
Mais non, on est là.
Ah, je croyais que vous aviez basculé dans la descente.
On va pas s'énerver, l'organisation. Non, on est à 5 km du sommet, dans la station de la Mongie. On vient de doubler à l'instant Blel Kadri et Mikel Nieve. Blel Kadri qui est dans la roue de l'Espagnol, hein, depuis tout à l'heure, qui n'arrive pas à prendre les relais. Il a le maillot grand ouvert, le Toulousain en souffrance. On a même vu s'agacer, s'énerver avec un supporter qui lui tendait une bouteille d'eau juste à côté de lui. Il semble quand même être à la limite. Le Français qui est emmené par l'Espagnol qui l'avait déposé tout à l'heure avec une petite accélération, vraiment sans même se mettre en danseuse. Donc Blel Kadri à la limite alors qu'il reste encore 5 km, qu'on commence effectivement à avoir la tête dans les nuages. On ne voit pas le sommet du Tourmalet, c'est vraiment les nuages là au-dessus de nous et la température évidemment qui est en train de baisser. De plus en plus de monde aussi forcément dans cette traversée de la Mongie au fur et à mesure que l'on se rapproche du sommet de ce col mythique du Tour de France.
Georges, on est en route vers Otakam, dans la montée vers Otakam tout à l'heure en se positionnant sur la ligne d'arrivée. On a vu beaucoup de supporters espagnols, beaucoup de maillots orange de la feu équipe Euskaltel Euskadi. Ces supporters-là ont la réputation d'avoir le sang chaud et parfois d'abuser de breuvages un brin alcoolisés. Est-ce qu'il y a déjà à 15h44 des débordements de la part des supporters parce qu'on est dans les Pyrénées et qu'on a l'habitude de voir quelques dérapages incontrôlés?
Alors pour l'instant là face à nous dans la Mongie, c'est calme. Il y a évidemment des drapeaux basques effectivement et des maillots orange un petit peu de partout, mais pour tout te dire, un petit peu plus bas tout à l'heure, on a vu les gendarmes arrêter sur la gauche de la route, qui avaient immobilisé un monsieur qui à mon avis avait un petit peu trop bu et qui essayait de faire la loi sur la route et qui à qui ont passé les menottes. Voilà, vous avez compris si vous êtes sur les bords de la route. Cette année la gendarmerie ne rigole pas. Si vous embêtez les coureurs, ben vous allez finir à l'ombre ce soir. Donc attention dans les trois derniers kilomètres maintenant de l'ascension. Pour l'instant c'est quand même bien sage devant nous. La route est encore assez large et le public assez tranquille, on va dire.
Oui, d'ailleurs il me semble que le public s'est assagi cette année, Fred, non?
Attendez au Takam, j'ai vu des têtes de vainqueurs en montant tout à l'heure. Ils sont quelques-uns, ça risque de payer aux alentours de 16h30, 17h. À mon avis, il y a quelques paires de menottes qui vont être utilisées en fin d'après-midi, peut-être un peu plus tard dans la soirée, mais ça, Marco nous en dira un peu plus ce soir.
On leur met les menottes et ils restent avec les menottes, ils attendent quoi?
Ça, faudra leur demander, mais effectivement, ça fait partie du spectacle du Tour, spécialement quand on arrive dans les Pyrénées et près de la frontière espagnole, spécialement côté basque. Ces gars-là ne rigolent pas. Enfin si, ils s'amusent beaucoup, mais parfois ça ne fait pas rire les coureurs et ça ne fait pas rire les suiveurs. Marco pourra en témoigner, lui qui pilote la moto RMC depuis une dizaine d'années maintenant. Il a pris, il peut le dire maintenant, quelques seaux de bière et même d'autres liquides jaunes bien odorants sur les bras, sur le torse et même sur le visage.
D'accord, c'est sympa. En plus, il protège bien son.
Ah, moi j'étais à l'abri, hein.
Son passager, parce que c'est quand même le cowboy Marlboro, hein, Marco, sur sa moto.
C'est pour ça qu'on l'aime.
Exactement. Il protège ses petits passagers à l'arrière. 53 km 402. L'arrivée 4 minutes 05. Toujours ces deux hommes en tête, Nievé et Kadri. Cyril, Kadri va-t-il jouer sa carte perso ou sert-il les intérêts de ses leaders que sont Perrault et Bardet pour plus tard, et notamment la montée vers Otakam?
La décision n'est sûrement pas prise pour l'instant. Il reste 3 km 300 pour les hommes de tête pour franchir le sommet. Le peloton, pour l'instant, ça reste très très calme. Il est évident que si ça reste calme jusqu'au sommet, l'échappée risque d'arriver avec 4 minutes d'avance au pied de Otakam, et à partir de ce moment-là, il n'est pas impossible que Kadri tente tout simplement de faire comme Machka, c'est-à-dire aller chercher une deuxième victoire d'étape.
Mais oui, une deuxième victoire
d'étape. Mais tout dépend ce qui se passera de l'arrière.
Mais oui, tout dépend de la bagarre, si elle se déclenche ou non. Dans le groupe maillot jaune, pour l'instant, Fred, tout est calme. Hein, tout est calme, dans ce groupe maillot jaune. Pas d'attaque, toujours ce rythme emmené par les coureurs de la formation Astana et les coéquipiers de Nibali.
Oui, et ça se vérifie au niveau des écarts, puisque l'écart est stabiliser l'avance des deux hommes de tête, Nievé, le basque de l'équipe Sky, et Kadri, le toulousain de la formation AG2R La Mondiale, conserve une avance de 4 minutes sur le peloton maillot jaune, toujours emmené par les coéquipiers de Vincenzo Nibali. On a vu d'ailleurs l'un des équipiers de Nibali, Jakob Fuglsang, le Danois, s'écarter tout à l'heure, avoir roulé quelques hectomètres et lâché la rampe pour de bon, se garer, comme disent les coureurs, en levant le bras furieux. Ils en ont plein les bottes, les 165 rescapés du Tour, et même Jakob Fuglsang, qui fait le travail pour Nibali, n'en peut plus. Dès le début, dès la première moitié du Tourmalet, il s'est écarté, laissant Liu Vestra et Michele Scarponi juste devant leur maillot jaune de leader Vincenzo Nibali. Il y a un troisième équipier de l'équipe Astana dans ce groupe maillot jaune. Il est dans la roue de son leader Vincenzo Nibali, c'est l'Estonien Tanel Kangert.
Ok, nous allons maintenant un peu plus loin sur la route de la course, dans la montée finale vers Otakam, avec le héros, le premier héros de Otakam, c'était en 94, Luc Leblanc, Lucho, qui s'est arrêté à nouveau avec la Lucho Mobilette. Lucho.
Ouais. Non, je me suis pas arrêté, là je suis en rouge, j'ai dit à Paris si vous aviez besoin de me poser quelques questions sur la montée, puisque je suis en train de rouler jusqu'à 5 km de l'arrivée, puisqu'il y a une troupe de personnes qui m'attendent à 5 km de l'arrivée, voilà. Et donc oui, je suis en train de monter les premiers lacets. Donc d'Otakam, avec énormément de monde, beaucoup de pente bien sûr, et c'est vrai que ça va être un moment décisif pour les principaux favoris, et notamment on attend beaucoup de Thibaut Pinot, parce que les pentes sont vraiment raides jusqu'à en haut.
ça te rappelle des souvenirs là de trouver dans cette montée d'Otakam, montée dont on parlait tout à l'heure, avec des changements de rythme très très fréquents. Elle est difficile, hein, cette montée d'Otakam.
Ah oui, elle est difficile parce que il y a pratiquement pas de récupération, mis à part un petit kilomètre au bout de 5 kilomètres de montée, mais il y a vraiment des passages très très durs, entre 10 et 11%, voire un peu plus, et on récupère pratiquement pas, quoi. On est toujours, comme on dit dans le jargon cycliste, au taquet. Voilà, donc il y a vraiment des possibilités de faire des écarts. Et moi je me souviens en 94, quand on a monté le pied d'Otakam, c'était la seule montée de la journée puisqu'on partait d'Agen. Et ça faisait énormément mal aux jambes parce qu'on passait du 53-11 au 39-23 pratiquement. Donc il y avait un temps d'adaptation dès le pied qui n'était pas évident. Et ça, le peloton a complètement explosé au pied. Et puis ça sautait au fur et à mesure par l'arrière. Et puis on s'est retrouvé deux après. Mais Pantani était exceptionnel ce jour-là parce qu'il avait attaqué dès le pied. Et on connaissait Pantani à l'époque. Les attaques de Pantani et la vitesse à laquelle il montait, il était insuivable. Et on a quand même réussi avec Miguel Indurain à le reprendre à 3 km de l'arrivée. Et puis là, j'ai vraiment vécu un moment magique. C'est vrai que c'est un des moments les plus magiques de ma carrière. Et j'en suis fier. Mais voilà, on va pas revenir tout le temps sur Lucho et Otakam. Hein. Mais une course aujourd'hui, c'est une course formidable et peut jouer plein de choses pour nos petits Français. Ça va être sensationnel. La dernière montée, là, ça va donner très très fort, j'en suis sûr.
Très bien, Lucho, on te retrouve tout à l'heure évidemment dans la montée d'Otakam. Il se passe des choses en tête de course. Georges sur la moto.
Exactement, à 3 km du sommet, alors qu'on a vraiment la tête dans le brouillard maintenant. Les deux hommes de tête, ça a bougé puisque Mikel Niévé, l'Espagnol de l'équipe Sky, qui a accéléré comme tout à l'heure au train et qui a lâché Belkadri 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres d'avance sur le Français, tête baissée. Il était à la limite, hein. On le sentait depuis tout à l'heure, et il est en train là de ne pas pouvoir suivre le rythme de l'Espagnol. On passe les remontées mécaniques au-dessus de nous, on est vraiment dans les nuages alors que l'on se rapproche du sommet du Tourmalet à plus de 2000 mètres d'altitude.
Ouais, il me semble que Belkadri, Fred, réussit tout de même à reprendre petit à petit, mètre par mètre, l'avance qu'avait prise il y a quelques instants de Niévé. Il s'accroche, hein, le corps, la formation G2R.
Oui, vaillant comme il l'avait été à Gérardmer sur les hauteurs de la station Vosgienne en direction de la Moselaine, là où lui, le coureur toulousain de l'équipe à G2R La Mondiale, il avait déclenché, ouvert le compteur des Français sur ce tour en remportant l'étape dans les Vosges après près de 9 jours de course. Il est vaillant, il est courageux, c'est l'un de ses traits de caractère. Belkadri, coureur audacieux, baroudeur, qui avait remporté une prestigieuse étape au pied du Colisée de Rome l'an passé, la Roma Maxima. Il vient de recoller pour la deuxième fois dans ce Tourmalet à la roue de Mikel Niévé. Niévé qui se balade aujourd'hui dans le Tourmalet. On est à moins de 2 km du passage au col. Derrière, le peloton laisse filer les deux hommes de tête. Rappelons que Thomas Vauclair est intercalé à 2 minutes. Bonne nouvelle, Thibaut Pinot semble très bien avec son maillot blanc grand ouvert dans la route Vincenzo Nibali.
Très bien, la moto RMC, Georges, toujours dans les derniers kilomètres de ce Tourmalet.
Oui, dans les derniers lacets, on va les remonter mécaniques dans le brouillard un petit peu désormais. Et Mikel Niévé qui emmène toujours Belkadri dans sa roue, mais on voit quand même des signes de difficulté pour le Français qui regarde son pédalier, qui essaie de se mettre en danseuse, de suivre le rythme de l'Espagnol, qui visuellement semble quand même être en tout cas un cran au-dessus du Français aujourd'hui dans l'altitude, en tout cas, ou dans l'état de forme. On se rapproche du sommet et on ne voit pas du tout le sommet, hein, puisqu'il est dans les nuages. Donc on va arriver dans quelques instants à 1 km du sommet de ce col du Tourmalet, et que l'on ne voit pas, on le verra je pense à la dernière seconde, les inscriptions par terre, les inscrites à la peinture comme d'habitude, les camping-cars, les drapeaux, le public très nombreux pour voir le sommet de ce Tourmalet, mais ils vont pas beaucoup pouvoir les voir, les coureurs, parce qu'on n'y voit pas grand chose au sommet ici.
Alors que Kadri prend le relais désormais de Niévé, il est pas mal finalement ce petit Belkadri aujourd'hui. Georges disait qu'il avait l'air un peu en difficulté. adapté aujourd'hui, mais il connaît des par moments des périodes de moins bien, mais il réussit à l'orgueil à revenir dans la roue de Nieves.
Il grimpe à la manière d'un Thomas Vauclair, Blaise Cadry, de manière assez irrégulière, par à coup, dirait-on dans le jargon cycliste. Un coup je m'accroche, un coup je décroche, et il y en a un qui est en train de dévisser littéralement. C'est Thomas Vauclair lui-même qui intercalait entre la tête de course et le peloton maillot jaune, puisqu'il s'était glissé dans la grosse échappée de 20 coureurs tout à l'heure à la sortie de Pau. Et bien Thomas Vauclair est en train de prendre cher. Il met tout à gauche, comme disent les coureurs, le plus petit braquet pour essayer de franchir le Tourmalet en serrant les fesses. Le duo tête Nieves Cadry qui désormais unit ses efforts. On essaye de ne pas s'attaquer, de ne pas hausser le rythme et d'adopter l'allure la plus régulière possible, moins d'un kilomètre avant le passage au col du Tourmalet. Et Nieves mène toujours avec Cadry 4 minutes 12 d'avance sur le groupe maillot jaune et toujours 1 minute d'avance sur le trio Trofimov, Demarki et le Polonais Uzarski.
Oui, ces deux hommes-là, Cadry et Nieves, ont intérêt à s'entendre s'ils veulent espérer remporter l'étape tout à l'heure, Cyril. Hein, ça sert à rien de s'attaquer à cet endroit de la course, il reste Otakam tout de même.
Oui, tout à fait. Ça n'a aucun intérêt à se retrouver seul dans la descente. D'autant que si vous regardez bien là au-dessus de la zone technique, les drapeaux sont droits.
Pas devant, voilà ce que ça signifie.
Si, il y a un vent terrible ici, là.
Ah, droit.
Les drapeaux sont droits, oui.
Oui, voilà, droit donc, dans le sens horizontal et non pas dans le sens vertical.
Voilà,
on
tout à fait. Non, ils ne sont pas effectivement perpendiculaires.
Ils ne sont pas à plat.
Ils sont horizontales.
avec un haut à la
Alors, c'est important à signaler, ce qui veut dire que le vent va être important dans la vallée. Oui. Entre les deux cols.
Oui, mais c'est quelque chose que les coureurs qui étaient venus repérer cette étape il y a quelques semaines avaient noté. Le vent souffle souvent de manière défavorable et de manière assez forte dans la vallée précédant la montée d'Otakam. On le sait pertinemment et c'est peut-être bien pour cela qu'on ne bouge pas une oreille à l'avant de ce groupe maillot jaune. On reste groupé, un groupe maillot jaune où l'on trouve encore une grosse trentaine d'unités toujours conduit par les deux coéquipiers de Vincenzo Nibali, Liu Vestra le Hollandais et Michele Scarpoli l'Italien. Derrière, ils sont nombreux et on trouve les Français Pierre Roland, Thibaut Pinot, Jean-Christophe Perrault, Romain Bardet, mais aussi Brice Feillu, Arnold Jeannesson. Vous voyez qu'il reste encore pas mal de monde. La course, elle a lieu en ce moment dans le final du Tourmalet, là-haut, dans les nuages, avec Nieves et Cadry qui sont désormais à 400 mètres du sommet, à plus de 2000 mètres d'altitude.
Ça sprint entre les deux hommes, en tous les cas, ça se relance en danseuse. Ils ne s'attaquent pas véritablement. Vont-ils essayer de faire les points du classement de la montagne? A priori, ça n'a aucun intérêt pour les deux car ils sont très loin dans ce classement-là. Ils vont dans quelques instants passer au col du Tourmalet, avant-dernière difficulté de ce Tour de France 2014. Ensuite, la longue descente et la montée vers Otakam qui sera aussi très longue et très compliquée pour les coureurs.
Christophe, c'est important le sommet du col du Tourmalet parce que c'est le souvenir Jacques Godet.
D'accord, donc c'est un peu prestigieux en quelque sorte.
Voilà, hein,
et
puis,
il doit y avoir une belle prime aussi, oui.
Il y a une prime.
Alors, qui va la voir la prime?
Ce sera a priori Blaise Cadry, si les choses devaient en rester là. Peut-être que Blaise Cadry, avec son sens patriotique, va vouloir honorer la mémoire de Jacques Godet, fondateur du Tour de France il y a plus de 110 ans maintenant. Blaise Cadry qui va devoir contrôler les velléités de Michael Nieves. Et puis derrière, il y aura, vous venez d'en parler tous les deux, la descente du Tourmalet qui est très rapide avec passage à Barèze jusqu'à Luz-Saint-Sauveur. Ce matin, mon petit doigt m'a dit que l'ancien vainqueur du Tour, Greg LeMond, présent ici comme consultant pour Eurosport, a monté le Tourmalet avant de le descendre. Et Greg, qui a pris quelques kilos, c'est vrai, mais qui n'a pas perdu de sa fougue, a atteint les 90 km/h dans la descente. Ça va très très vite. Prudence dans cette descente. Mais si Greg, qui n'est plus dans le peloton cycliste, arrive à atteindre les 90 km/h, nul doute que les meilleurs descendeurs du peloton aujourd'hui frôleront les 100 km/h. C'est vertigineux.
La prime pour qui? Pour Cadry ou pour Nieves? En 2010, lors du centenaire du premier franchissement, une prime de 5 000 euros tout de même. Hein,
bien. Aujourd'hui, c'est Blel Kadri qui vient de franchir à l'instant le Tourmalet devant Mikel Nieve. Ce duo de tête, ce duo franco-espagnol, aujourd'hui pas loin de la frontière justement franco-espagnole, va compter là-haut à 2115 mètres d'altitude, près d'une minute 20 sur un trio composé du Polonais Uzarski de l'équipe Tenta Pandura. Il y a là Yuri Trofimov, le Russe de l'équipe Katusha, et l'excellent grimpeur italien que l'on voit tout le temps à l'avant de la course en montagne. C'est Alessandro De Marchi, le coureur de l'équipe Cannondale, qui, selon nos informations, devrait porter l'an prochain le maillot de l'équipe Astana. Il sera coéquipier de son compatriote Vincenzo Nibali, a priori.
Voilà, le sommet à 1 km pour le peloton désormais, alors que Blel Kadri, l'a dit, comme l'a dit Fred, est donc passé en tête à ce col du Tourmalet devant Nieve. Il y a beaucoup de garçons intercalés. Nous sommes à 41 km de l'arrivée et toujours pas d'attaque dans le peloton maillot jaune. Fred, ça se regarde.
Ça s'est neutralisé.
Ça se neutralise.
Ouais. Et oui, ça monte piano piano. Tout va se faire soit dans la montée d'Otakam, la dernière difficulté, vraie difficulté du Tour de France, soit dès la descente. Souvenez-vous, lors de la descente de l'Izoard, les AG2R La Mondiale avaient tenté d'esseler, de mettre en difficulté Thibaut Pinot. Il l'avait réussi un court laps de temps. Et puis hier, surtout hier, juste avant la montée vers Saint-Lary-Pladadais, Romain Bardet avait attaqué Thibaut Pinot dans la descente de Val-Louron-Azay. Alors là, on est encore loin de l'arrivée. Il y aura pas mal de kilomètres de vallée, une petite vingtaine de kilomètres dans la vallée avec ce vent que l'on évoquait qui souffle fort et de manière défavorable. La question, c'est les AG2R La Mondiale, voudront-ils faire tomber du podium Thibaut Pinot, que ce soit pour Jean-Christophe Perrault qui est à 8 secondes seulement de Pinot au général, ou pour Romain Bardet. On va suivre cela avec attention, évidemment, les AG2R La Mondiale qui vont pouvoir jouer sur leur surnombre. Ils sont deux aux 4e et 5e place du général ce matin.
Cyril, est-ce que tu es déçu que ce col du Tourmalet n'ait pas servi de bagarre, de lieu de bataille pour les leaders du général?
C'était beaucoup plus intéressant pour nous à commenter, bien sûr. Maintenant, c'est les coureurs qui décident. Et je pense que si personne n'a enclenché au niveau de la Mongie, c'est qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de craintes, et que peut-être qu'on ne se sent pas aussi bien que ça pour passer de façon délibérée à l'offensive.
Pardon, le vent souffle très fort là-haut au Tourmalet. Georges nous le disait tout à l'heure, lui qui avait la tête dans les nuages. Il y a beaucoup de stress, peut-être, mais à mes yeux, Cyril, il y a beaucoup, beaucoup de fatigue. On est en fin de troisième semaine et les organismes, les faciès, trahissent des organismes très usés. Je ne sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais j'ai l'impression que les 165 rescapés du Tour finissent la troisième étape pyrénéenne complètement râpée.
Eh bien, c'est logique.
Oui. C'est heureux
que, ouais, qu'on arrive effectivement à cette dernière étape de montagne. Ça veut dire tout simplement que bien l'ensemble des coureurs se sont livrés depuis le départ à une course sans merci, sans pitié, et dans un très bon état d'esprit. Il faut quand même le noter. Donc que l'on manque un petit peu de ressort dans cette ascension du Tourmalet n'est peut-être pas tout à fait illogique.
Très bien. Physionomie qui est en train de changer en tête du peloton maillot jaune, puisqu'on voit certains coureurs se rapprocher de la tête de course. C'est le cas de Thibaut Pinot, porteur du maillot blanc, de meilleur jeune Thibaut Pinot, qui va peut-être essayer de prendre un peu d'avance pour descendre plus tranquillement. Fred,
oui, c'est ce qu'il fait depuis le début des étapes de montagne. Après 10 jours de course, on l'a vu dans les Alpes venir souvent se positionner même au grand ballon. On s'en souvient, Thibaut Pinot qui avait fait le sommet, il fait exactement la même chose là dans le final du Tourmalet. Il est dans la roue de Michael Rogers, le coéquipier de Rafał Majka, qui positionne son coureur, mais je suis pas vraiment sûr qu'il y ait des points à aller chercher. Non, il n'y en a pas. Rafał Majka va mettre un point d'honneur à terminer dans les 5 premières positions à cette ascension du Tourmalet, mais c'est bel et bien le maillot et cuissard blanc de Thibaut Pinot qui passe en tête de ce groupe maillot jaune au Tourmalet. Il va pouvoir effectuer la descente, positionné de la meilleure manière qui soit. Il vient de prendre quelques longueurs là en basculant. Il a remonté la fermeture éclair de son maillot blanc. et il va tenter de négocier au mieux la longue descente en direction de Luz Saint-Sauveur via Barège. On est sur des routes historiques, légendaires du Tour de France.
Mais la route est parfaite dans la descente du Tourmalet. Goudron impeccable, nous a dit tout à l'heure Dédé, notre ami Dédé de l'Assemblée des départements de France. Il est 16h04, on se quitte quelques instants et on revient pour la suite et la fin de cette étape avec, on vous le rappelle, la montée vers Otakam tout à l'heure. On espère qu'il y aura grande bagarre pour le classement général. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour.